Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous accompagner jusqu'à 14h. C'est parti pour notre vadrouille du dimanche, histoire de voir un peu comment on vit ailleurs. Et on entendra d'abord les Français de l'étranger. Certains se sont emparés du grand débat national. Ils vivent hors de France, parfois très loin. Mais cette crise des gilets jaunes les a interpellés. Je vous emmènerai au Kenya, un pays qui a misé depuis plus de 50 ans déjà sur l'énergie verte. Et aujourd'hui, ça paye. C'est le premier producteur d'électricité par géothermie sur le continent africain. On ira aussi au Qatar, qui vient de remporter le premier grand titre de sa brève histoire du foot. Vendredi, son équipe a gagné la Coupe d'Asie des Nations en battant le Japon. Une victoire de bon augure, peut-être, pour le futur hôte du Mondial de foot en 2022. Dans les carnets, on vous emmène à Doha et dans ses environs pour voir où en sont les préparatifs et comment les stades sortent des sables du désert dans le petit émirat. Et puis on retournera à Angoulême, qui il y a 8 jours encore était le rendez-vous de tous les dessinateurs du monde. Les jeunes auteurs de BD y vont aussi pour tenter leur chance. À coup de speed dating avec les éditeurs, ils tentent de forcer leur destin. Pas de roman étranger cette semaine dans les carnets, mais un film franco-suisse qui nous fera entrer dans le monde du culturisme. Quant à Joseph, il est rentré de voyage et ses pérégrinations lui ont inspiré quelques réflexions sur les nationalités. Les carnets du monde sont ouverts et on file d'abord à la rencontre des Français de l'étranger. Figurez-vous que le grand débat national se déroule aussi hors de France, à des milliers de kilomètres parfois. Quelques 2 millions de Français vivent à l'étranger et eux aussi organisent des débats. La crise des gilets jaunes, ils en ont entendu parler dans les médias, ont suivi à distance souvent. Mais parfois, la période des fêtes a été l'occasion de revenir en France et de se rendre compte par soi-même. Comme Franck Barthélémy, par exemple. Il est conseiller consulaire à Bangalore, dans le sud de l'Inde. C'est-à-dire que c'est un élu local qui représente dans sa région les Français de l'étranger.
Sincèrement, en lisant la presse française, je n'avais pas l'impression que c'était un mouvement important qui allait s'emballer, qui allait durer, toutes ces choses-là. Et quand je suis venu en France et que j'ai vu chez mes parents en Provence, des gens sur les ronds-points et tout, je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc qui se passe. Et même si je suis un tout petit élu, je me suis dit, en tant qu'homme politique, c'est un truc qu'on n'a pas vu passer. Et j'étais un peu en colère après notre classe politique, après moi-même, en me disant, c'est incroyable qu'on n'ait pas été à l'écoute. Voilà. Et donc ce débat, pour moi, il est vraiment tombé à point pour essayer de comprendre.
Voilà, comprendre, débattre, s'exprimer. On se réunit donc aussi à Alger, Budapest, Boston ou Kuwait City. Souvent, ce sont des petites réunions, une vingtaine de personnes. Et de quoi parle-t-on dans ces débats? Un exemple, en Égypte, Ariane Lavrieux est allée tendre son micro aux Français du Caire. C'était mardi soir dernier, ambiance.
Il est presque 7h du soir, quelques faibles lampadaires éclairent le terrain de foot vide du lycée français du Caire. Et dans sa salle des fêtes, un cercle de chaises s'est formé autour d'Amélia Lacraffi. C'est la députée des Français qui habite en Afrique et au Moyen-Orient.
Très bien. Mais écoutez, je suis ravie que vous ayez pu vous déplacer, même si ça a été un peu à la dernière minute.
Je note que nous sommes 15 femmes et 8 hommes.
Bravo. Qu'on soit 5 ou 150, l'intérêt c'est de débattre. Alors, il y a 4 grandes thématiques. Vous avez bien sûr la fiscalité, le sujet que tout le monde adore, n'est-ce pas ?
Moi, je propose que, puisque le gouvernement a tendance à ne pas vouloir revenir sur l'ISF, on pourrait faire comme on peut faire en Égypte, toutes ces grosses entreprises, ces grands patrons, en leur demandant de financer des projets d'utilité publique, de participer à des puits d'eau potable pour des petits villages dans le sud de l'Égypte.
Quel est l'intérêt pour l'entreprise ?
C'est une visibilité. Au lieu d'investir dans des panneaux publicitaires qu'on ne regarde plus, ils préfèrent participer à la solidarité nationale.
Élue sous l'étiquette En Marche, la députée note la proposition sur sa tablette et tente de défendre l'impôt sur la fortune.
L'ISF existe toujours, il s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et on incite ces gens à ne pas partir, on les incite à investir dans l'économie française.
Il faut les forcer. Alors...
D'autres sont entrepreneuses ou à leur compte et ont quelques idées pour que la France leur simplifie la vie.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, une fois que vous n'êtes plus résident en France, il n'est plus valable. Ce que je trouve dommage, parce qu'on peut continuer à travailler à distance, avoir des missions en France. Quand vous venez à l'étranger pour 2 ou 3 ans, vous êtes le conjoint Ça vous permet de continuer à travailler, parce que parfois c'est difficile. Par exemple, moi ici, je suis en train d'essayer d'avoir mes papiers de permis de travail. J'y suis depuis 10 mois. Je trouve que pour l'État, c'est quand même pas compliqué. On paye des impôts directs à la source quand vous êtes auto-entrepreneur. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir permettre pour des Français qui ne sont pas résidents.
Mais c'est bien, c'est une proposition qui vous facilite la vie et en plus qui fait entrer des impôts dans la caisse de l'État. J'adore.
J'ai peur qu'ils retiennent que les idées qui rapportent des impôts.
Moi, ce que je vois, c'est que on demande un truc, c'est faites rayonner la France. Alors c'est la culture, c'est la francophonie. Faites-le comment ? À peu de frais.
Après plus de 2 heures d'échange, les grands dossiers sur la démocratie et la citoyenneté n'ont pas été abordés et certaines s'agacent.
Excusez-moi, on parle de questions qui concernent une expatriation particulière. Ça, ce sont des questions à relayer auprès de notre député et ce n'est pas la raison de ce qui est en train de se passer là, qui s'appelle le grand débat national. S'il vous plaît, parlons de la France. Depuis le début de ces manifestations, il y a des gens qui perdent des yeux, il y a des gens qui perdent des mains. Quand je regarde ça de loin, je me dis, mais est-ce bien la France que je suis en train de regarder ?
Alors, est-ce que je peux vous dicter ce que j'ai écrit ? Alors, vous m'écoutez ?
Le grand débat se termine sur un brouhaha de désaccord et la promesse de la députée d'envoyer aux participants son compte-rendu avant de le transmettre à l'Élysée. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Voilà, un débat vivant. Parler de la France ou parler des problèmes spécifiques des Français expatriés ? Eh bien, c'est selon. À Sousse, par exemple, dans le sud de la Tunisie, Francis Gaëti, lui aussi conseiller consulaire, a bien lancé le débat sur les grandes thématiques nationales, mais ce sont les difficultés locales qui souvent ont repris le dessus.
Il y a des particularités qui ont été évoquées. Hein. La fiscalité spécifique aux Français de l'étranger, hein. Est-ce que on doit payer des impôts en France ou non ? Alors bon, les avis sont partagés. La proximité des services publics, on en parle en France. Hein. Nous, j'ai le problème du consulat. Le consulat, il est à Tunis. Bon, ils aident des personnes sur un rendez-vous, c'est pas facile. Pour les gens qui travaillent ou les personnes âgées, d'aller à un rendez-vous à 250 km. Hein, un rendez-vous état civil, quoi. Service public, la proximité, on la ressent pas.
Autre approche, celle de la douzaine de Français de Bangalore en Inde, qui se sont passionnés pour le grand débat national. Franck Barthélémy animait la rencontre.
Moi, quand j'ai lancé le débat à Bangalore, c'était mon premier débat, je leur ai dit de quoi voulait-on parler. On a le choix. On peut faire soit comme tous les maires font, on peut essayer de regrouper des doléances sur nous. Voilà, on peut essayer de faire des réclamations en quelque sorte. Et ils m'ont tous dit non, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On voudrait justement répondre à ces questions d'importance nationale et participer à la réflexion. On a passé quand même 4h30, hein, Bangalore, on a passé 4h30 à débattre.
En fait, d'une certaine manière, ils voulaient se reconnecter à la France, quoi.
À la vie nationale. Et c'était, on avait l'impression que c'était un besoin. C'était étonnant aussi, parce qu'encore une fois, on vit plutôt dans des environnements privilégiés.
Ouais.
Et sincèrement, la France, on n'en parle pas beaucoup quand on est à Bangalore. On fait des soirées entre Français, des soirées cosmopolites avec les Indiens, avec d'autres expats. Donc, les grèves en France ou des choses comme ça, à moins qu'on ait un avion à prendre, on n'a pas grand-chose à faire. Ouais. Et là, d'un seul coup, il y avait quelque chose.
Besoin de se reconnecter quand on vit en Inde, mais la situation est encore différente pour ces expats qui vivent plus proches, en Europe. Exemple, ceux qui se sont réunis 2 fois déjà dans un café français de Copenhague, à l'initiative de Boris Lemeek, étudiant ingénieur en informatique, sympathisant En Marche et au Danemark en Erasmus.
On les connaît au final, les problèmes qu'on avait en France, on les retrouve plus ou moins ici. Les problèmes d'argent sont les mêmes, la vie est même plus chère ici. C'est pas parce qu'on est des expatriés que forcément on est des personnes qui sont très aisées financièrement, au contraire. Et le fait qu'on vive dans un autre pays, on peut comparer avec les coutumes, les mœurs qui sont ici, les lois en vigueur, tout ça. Donc on peut comparer avec la vie et ça apporte en fait un atout considérable. J'ai même l'impression que c'est plus intéressant de le faire depuis l'étranger que de le faire depuis la France, où au final, on ne peut pas vraiment comparer avec autre chose. Donc ouais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait cette valeur ajoutée qu'on pouvait apporter au débat.
Voilà, comparer, s'inspirer du modèle danois, en l'occurrence, en matière de transition écologique, là-bas, il y a de quoi faire.
Très rapidement, on est arrivé quand même sur le point des consignes qui sont ici très importantes au Danemark. N'importe quelle bouteille en verre ou en métal ou même en plastique, mais c'est le plus important sur le verre, est consigné ici. On paye un supplément qui va être aux alentours de 15 centimes, c'est inclus dans le prix, mais au moment où on ramène la bouteille, on récupère cet argent et on peut l'utiliser directement pour se racheter une autre bouteille. Donc tout est recyclé et c'est au niveau de l'écologie très intéressant, mais ce n'est pas la seule mesure qu'on a vue. On a vu aussi, il y avait une question dans le questionnaire qui nous a bien intrigué, c'était au niveau de des idées qu'on avait en France et qu'on aurait pu faire valoir pour nos voisins européens. On pensait notamment à Emmaüs, dont le Danemark s'inspire énormément pour tout ce qui est la recycle en fait, de vêtements. Mm-hmm. On est beaucoup regardé en France depuis le Danemark par rapport à ça, parce qu'ils ont trouvé notre modèle très intéressant.
Voilà, échange mutuel de bonnes idées autour du recyclage pour ce groupe de Français du Danemark, qui trouve globalement d'ailleurs qu'on a tort d'opposer écologie et pouvoir d'achat.
Au niveau de l'écologie, on est souvent arrivé à la conclusion que c'était un débat qui était souvent mis à part du fait que la plupart des gens voulaient d'abord résoudre leurs propres problèmes, que ce soit le chômage, le pouvoir d'achat et tout, et remettaient souvent l'écologie à après. Alors qu'au final, non, comme on regarde les pays scandinaves comme le Danemark, la Suède ou la Finlande, ils ont pris ce problème en même temps que les autres, et ça les a aidés en fait à résoudre les autres problèmes qui sont pouvoir d'achat et chômage. C'est un des points qui a été très largement apprécié par tout le monde lors du débat hier, en tout cas.
Voilà, on termine avec quelques idées venues de loin. À Bangalore, en Inde, pas mal de propositions concrètes ont émergé des 4h30 de débat. 4h30, vous vous rendez compte? Et on saluera au passage un enthousiasme remarquable, Franck Barthélémy.
La transition écologique nous a fait parler de beaucoup de choses. Par exemple, du modèle économique français. Est-ce qu'il faut le remettre en cause? On a parlé pendant assez longtemps, par exemple, d'un modèle de décroissance contrôlée. Et on a parlé de fiscalité. Et par exemple, il y a une idée qui est sortie de notre débat qui est, mais pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas plus, par exemple, les légumes qui ne sont pas de saison? Les fraises en hiver, c'était l'exemple qu'il me donnait. Alors j'ai dit, effectivement, pourquoi pas?
D'autres on idées parlé... aussi, ouais, alors, concrètes?
Oui, d'autres idées concrètes, comme par exemple, une mère de famille disait, mais ça serait bien qu'au-delà de 2 voyages par an, on surtaxe les billets d'avion des Français de l'étranger.
Que vous n'allez pas vous faire des copains partout. Hein.
Ben non, mais il n'y en a pas un qui a dit que c'est une mauvaise idée.
Ça va changer quelque chose pour vous, Français de l'étranger, d'avoir fait organiser ce débat?
Alors, pour les gens qui étaient autour de la table, ils ont l'impression, pour la première fois, ils me disaient de leur vie, d'être écoutés. Vraie reconnexion. Alors par contre, je pense que maintenant, il y a une attente assez extraordinaire de ce qu'on va faire de ces idées.
Voilà, être écouté, pourquoi faire, c'est un peu la question ultime que tout le monde se pose et le grand défi de ce grand débat auquel les 2 millions de Français de l'étranger participent à leur manière.
Europe 1.
Et dans un tout petit instant, on parle encore d'écologie, ou plus précisément d'énergie propre. On se rend chez le champion de la géothermie en Afrique, j'ai nommé le Kenya. C'est un pays qui, depuis très longtemps déjà, mise sur l'énergie verte, grâce notamment à la géothermie. Vous savez, la géothermie, c'est cette technologie qui permet d'exploiter la chaleur naturelle que l'on trouve dans les entrailles de la terre pour produire de l'électricité, une énergie propre et peu coûteuse à terme. Eh bien, le Kenya en est le 8e producteur au monde et le tout premier en Afrique. En 2017, les centrales géothermiques du Kenya ont même produit la moitié de l'énergie consommée dans le pays. C'est une source d'énergie qui va encore augmenter dans les années à venir. Écoutez ce reportage à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, à Olkaria. C'est le plus important site géothermique du pays. On y va dans les pas de notre correspondante Charlotte Simonard.
Nous sommes en territoire Maasai, face à Olkaria 2, l'une des 4 centrales géothermiques en opération sur le site. Ici, zèbres, girafes et autres antilopes aiment gambader à l'abri des prédateurs et à côté de kilomètres de tuyaux qui s'entremêlent parsemés d'épais nuages de vapeur. Sirius Karingiti, directeur adjoint chez KenGen, l'opérateur public d'électricité, m'explique comment ça marche.
En face de nous, c'est un puits de production qui extrait l'eau et la vapeur du sol. La vapeur, une fois séparée de l'eau, rejoint le circuit principal dans ce gros tuyau que vous voyez là. L'eau, quant à elle, retourne dans la terre via ce puits de réinjection. Ainsi, nous avons une boucle. La vapeur rejoint la centrale électrique où elle fait tourner des turbines, ce qui génère l'électricité. C'est très simple.
Le site d'Olkaria est situé au cœur de la vallée du Rift, cette faille sismique qui sépare l'Afrique de sa corne. Ici, la croûte terrestre n'est épaisse que de 3 km. La source de chaleur que retient la Terre y est donc plus facilement accessible. 300 puits ont été creusés sur le site pour une capacité de production de 650 MW, de quoi alimenter plus de 3 millions de foyers.
La géothermie produit de l'électricité 24 heures sur 24. Ce n'est pas le cas de l'hydraulique, qui dépend du niveau de l'eau dans les barrages et varie en période de pluie ou de sécheresse. Le vent, lui, n'est disponible que 40% du temps. et l'énergie thermique est très chère. La géothermie est la solution pour réduire le coût de l'électricité, ce qui attirera les investisseurs, créera des emplois pour nos jeunes et rendra notre économie durable.
Seul bémol de la géothermie, l'investissement de départ, colossal, de 5 à 10 millions de dollars pour creuser un seul puits. Alors pour aider le Kenya à atteindre ses ambitions, il y a 20 ans déjà, les banques de développement européennes se sont lancées dans le projet. Parmi elles, l'Agence française de développement qui a investi plus de 100 millions d'euros à Olkaria. Laurent Farge est le responsable du programme énergie de l'AFD au Kenya.
L'AFD est intéressée par financer des projets viables qui font du sens pour les pays. Ce qui nous semble important, c'est également d'accompagner le Kenya, toujours dans la géothermie, mais plutôt sur des aspects plus long terme. Parce qu'il peut y avoir d'autres sites dans le pays qui sont aussi intéressants que le Kenya à développer. Les coûts d'investissement pour tout ce qui est exploration, toutes les études en amont de l'investissement de créer une centrale géothermique sont très lourds. Et c'est des projets très risqués, donc c'est des projets pour lesquels l'AFD a toute sa place.
Direction Olkaria 5, la dernière centrale géothermique du site encore en construction. Peter Tchegué est ingénieur en charge de sa construction.
Ici, nous sommes sur le site de la centrale Olkaria 5. Elle aura une capacité installée de 165 MW. Et comme vous le voyez, la plupart des tuyaux sont déjà construits. Ce sera la plus grande centrale d'Olkaria. Il sera opérationnel en juillet 2019.
Les centrales 6 et 7 sont déjà à l'étude. Le Kenya voit grand car la demande en électricité augmente chaque année de plus de 5%. Sirius Karingiti de l'opérateur public kenyan.
Au Kenya, dans les zones urbaines, 7 foyers sur 10 ont accès à l'électricité. La moitié en zone rurale. Le jour où tous les Kenyans auront de l'électricité, le pays pourra se développer et obtenir le meilleur de ses citoyens. De plus, ça permettra de préserver l'environnement car les gens arrêteront de couper du bois pour s'éclairer, cuisiner, etc.
À ce jour, seul 10% du potentiel géothermique est exploité au Kenya. Un potentiel estimé entre 7000 et 10 000 mégawatts. C'est 4 fois plus que ce que l'ensemble des centrales peuvent déjà produire dans le pays, toute énergie confondue. À Olkaria, Charlotte Simonard, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Charlotte au Kenya, de retour de la capitale Nairobi. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
Alors le Kenya mise de plus en plus sur la géothermie. Quels sont les objectifs du gouvernement ?
Alors la part de la géothermie, c'est actuellement 30% de la capacité totale de production du Kenya, même si c'est vrai que certaines années, eh bien, la géothermie a déjà pris une place plus importante hein, lorsque d'autres sources de production étaient au ralenti. Quand il y a une sécheresse par exemple, eh bien, les centrales hydroélectriques ne fonctionnent pas. Donc 30% aujourd'hui, mais l'objectif du gouvernement, qui est parfaitement réaliste d'ailleurs, c'est que la géothermie représente 50% du parc total de production d'ici quelques années en 2025.
Et quel est l'impact pour la population ? Est-ce qu'elle le voit sur sa facture d'électricité ?
Alors non, le Kenyan lambda ne le ressent pas encore tout à fait, même si la tendance est légèrement à la baisse des prix de l'électricité. Parce qu'il faut savoir qu'ici au Kenya, eh bien, la facture est plutôt salée par rapport aux autres pays d'Afrique, car c'est l'un des seuls pays qui ne subventionne pas son électricité. C'est-à-dire que les Kenyans payent le prix réel de l'énergie qu'ils consomment. Alors pas seulement le coût de production, il y a aussi le coût du transport, de la distribution. Et c'est d'ailleurs pour ça que le distributeur national, qui est Kenya Power, a des comptes à l'équilibre. Ce qui est assez exceptionnel en Afrique. D'ailleurs, les industriels vous diront eux-mêmes que l'électricité est un des postes de dépenses les plus importants dans leur coût de production. Et c'est aussi pour cela que le gouvernement kényan veut baisser fortement les prix de l'électricité à terme grâce à la géothermie.
Alors, on a compris que le Kenya était précurseur en matière de géothermie, mais au-delà, quelle est la part des énergies renouvelables dans sa production d'énergie ?
Eh bien, le Kenya produit déjà environ 85% de ses besoins en électricité grâce aux énergies renouvelables. Oui, il y a 50% par la géothermie, 30% par l'hydroélectrique et 5% par l'éolien et le solaire. Alors, le pays mise depuis longtemps sur les renouvelables et il a même pour ambition de réduire à zéro la part de l'énergie thermique, donc charbon, gaz, pétrole. Cela dit, tout n'est pas rose. Le Kenya s'apprête à faire un gros écart par rapport à ses promesses. Il projette de construire une centrale à charbon à Lamu, sur la côte kenyane. C'est un petit village de pêcheurs magnifique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La construction devait débuter en 2015, mais devant la levée de boucliers de la population, elle n'a pas encore commencé. Pour autant, le projet n'est pas encore officiellement abandonné.
Alors, d'autres pays voisins du Kenya sont situés sur cette même faille sismique du Rift. Pourquoi ne développent-ils pas la géothermie, eux aussi, comme le Kenya, puisque ça semble attractif ?
Eh bien, parce qu'en fait, le Kenya a une énorme avance. En fait, les premières explorations de la géothermie ici remontent aux années 50, avant l'indépendance. Et la production a débuté dans les années 80. Donc, le Kenya jouit depuis longtemps d'une expertise en la matière. Des ingénieurs tanzaniens et éthiopiens viennent d'ailleurs régulièrement se former ici. Alors, la Tanzanie, elle est très en retard sur les énergies renouvelables. Elle a un fort potentiel géothermique pourtant et de grandes ressources éoliennes et solaires, mais aucun projet concret n'est engagé. Le pays mise davantage en ce moment sur le gaz naturel, le charbon et l'hydroélectrique. Quant à l'Éthiopie, c'est le deuxième producteur d'énergie géothermique du continent. Alors avec seulement 7 mégawatts de capacité de production, c'est minime à côté du Kenya. Mais tout de même, l'ambition est là et de nombreux projets sont en cours de développement. Le pays a longtemps misé sur l'hydroélectrique. Il souhaite aujourd'hui se diversifier son approvisionnement électrique.
Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces infos et ce coup de projecteur sur le Kenya. On l'a compris drôlement en avance sur le développement de la géothermie. Merci, à bientôt dans les carnets.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre dans les carnets, un film dans le monde. Je vous emmène au cinéma pour découvrir un film franco-suisse. Ça s'appelle Pearl et Margot Barallon a beaucoup aimé. Elle nous rejoint tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et oui, jusqu'à 14h avec vous, Sophie Larmoyer. Cette semaine, un coup de projecteur sur un film dans le monde, pas de Nicolas Caro, Sophie.
L'ami Caro, ayant pris quelques repos bien mérités, c'est un plaisir d'accueillir à nouveau dans les carnets Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Votre rayon, c'est plutôt le cinéma. Cette semaine, vous avez donc vu et aimé un film franco-suisse qui nous emmène dans un univers un peu particulier.
Avec des bikinis à paillettes, des slips un peu trop serrés, beaucoup d'auto-bronzants et surtout des muscles, puisque nous sommes au beau milieu d'un concours de bodybuilding. Ouais. Alors le film s'appelle Pearl et raconte l'histoire d'une femme culturiste, Léa, candidate au titre de Miss Heaven, Miss Paradis quand même, c'est pas rien. Ouais. Alors tout se passe pendant les quelques heures qui précèdent son passage sur scène dans un hôtel suisse. La pression est à son comble, on s'en doute. Et elle va s'accentuer encore lorsque Léa voit débarquer Ben, son ex, avec Joseph, son fils. Elle ne les a pas vus depuis 4 ans. Son fils, elle ne s'en est jamais occupée. Alors forcément, les retrouvailles sont un peu compliquées.
T'as vu comme il a changé ?
Ah, remarque, toi aussi t'as changé.
Pourquoi tu joues ? Pourquoi tu m'as rien dit ?
T'as vraiment pris de partout. Même t'es encore plus balèze que sur Internet.
Écoute, je veux pas savoir ce que tu m'as foutre. T'as rien à faire ici.
Donne-nous simplement quelques minutes, là.
Y a pas de nous. Y a pas de toi, de moi. Rien. Dégage.
Viens, Joe, viens. Avec papa. T'as vu comme il a grandi ? Tu sais, il est dingue des super-héros, alors. Forcément, ton peignoir qui brille, les muscles,
tout ça... Je t'ai rien demandé. Je vais rien entendre. So don't fuck up everything.
Attends, Julia. Attends.
Tu le laisses en dehors de tout
okay,
ça.
Ok, tranquille.
Waouh, on imagine que la mère et l'enfant vont devoir apprendre un petit peu à se connaître.
Hein. Oui, l'histoire est assez simple. Elle tient en quelques lignes. Pearl, en fait, c'est avant tout un film sensoriel qui arrive à recréer une ambiance très particulière. Quasiment tout se passe dans l'hôtel, donc dans un cadre étroit, avec des couloirs, des chambres. Il y a toutes ces femmes et aussi ces hommes bodybuildés, souvent en peignoir ou à moitié nus, qui semblent presque flotter. Alors vous ajoutez une musique électropop un peu années 80, une lumière avec des néons, des projecteurs, et vous obtenez un film à l'atmosphère quasi onirique.
C'est plutôt original de s'intéresser au monde du bodybuilding.
Oui, c'est un milieu finalement assez méconnu. Alors j'ai posé la question à la réalisatrice Elsa Amiel, pourquoi le bodybuilding ? Ouais. Et en fait, c'est un choix qui est très cohérent avec à la fois son histoire personnelle et son parcours professionnel.
J'avais un sujet qui m'intéressait à la base, qui était la question du corps et de la représentation du corps. J'avais envie de poursuivre ce questionnement. Mon père était mime, donc je pense que ça vient pas de nulle part, que le corps comme langage et comme outil, voilà, ça a bercé toute mon enfance. Et puis, il y a eu un déclic à un moment donné, parce que je suis tombée sur le travail d'un photographe qui avait fait une série sur des bodybuilders. Des portraits, en fait, qu'il avait pris juste avant une compétition. Et j'ai eu un sentiment assez étrange, voilà, un espèce de mélange comme ça de répulsion et de fascination.
Alors ce mélange de répulsion et de fascination, on l'éprouve effectivement aussi en tant que spectateur. Mmh. Les corps des personnages, notamment celui de Léa, sont anormaux. Et en même temps, ils sont filmés avec beaucoup de délicatesse, souvent en très gros plan, et on finit par oublier leur côté difforme.
Ça a dû être compliqué d'ailleurs de trouver une actrice avec un corps pareil.
Mais c'est même complètement impossible en réalité. Ça demande beaucoup trop de travail de faire toute cette musculation avec des effets qui sont irréversibles. Ouais. Donc Elsa Amiel, elle a plutôt choisi de caster une véritable bodybuildeuse. Mmh. Elle a écumé des concours en Europe, en Amérique, et elle a finalement choisi Julia Fury, une athlète suisse, avec un physique très impressionnant évidemment. Ouais. Mais aussi un vrai talent. Elle partage l'affiche avec des comédiens écossais, belges, polonais qui sont quasiment tous professionnels à l'exception du petit garçon. Mais c'est bien elle qui crève l'écran.
Vous m'avez dit, Margot, que vous avez aimé aussi dans ce film la réflexion sur la féminité très présente dans Pearl. Ça semble paradoxal sur le papier.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors d'un côté, on a une bodybuildeuse, donc quelqu'un qui a réussi à s'affranchir des normes qu'on impose souvent aux femmes. Elle pousse de la fonte plusieurs heures par jour, elle est hyper musclée, son corps a pris un aspect assez masculin, mais en même temps, elle subit d'autres formes de pression, celle de la performance. Elle est soumise à un entraînement draconien, avec en plus un entraîneur un peu malsain, un peu concupiscent. Et à la fin, elle est quand même jugée sur son physique. Mais pourtant, le propos du film est profondément féministe et complètement assumé par la réalisatrice.
Pour moi, c'était en fait le trajet du film, c'était justement comment la femme pouvait se révéler et être pleinement. Cette femme, elle se met tout le temps dans le regard et dans le désir de l'autre. Elle s'est tout le temps mise dans l'autre, en fait. Tout le film, c'était comment déconstruire justement ces schémas et de sortir de toutes ces cases pour finalement écouter qui elle est, quoi. Pour qu'à la fin, juste, elle renonce à rien, en fait, mais qu'elle soit tout et qu'elle soit surtout.
Voilà, donc c'est un très beau film sur la libération d'une femme pas comme les autres. Ça s'appelle Pearl et c'est donc au cinéma depuis mercredi.
Voilà, Pearl d'Elsa Amiel avec Julia Fury, dont vous nous dites qu'elle crève l'écran dans le rôle principal. Merci beaucoup, Margot.
Merci à vous.
À une prochaine dans les carnets. Europe 1. Et c'est au Qatar qu'on file maintenant, à 3 ans et demi de la prochaine Coupe du Monde de foot. Où en sont les préparatifs, les nouveaux stades? Est-ce que les conditions de travail des ouvriers se sont améliorées? Reportage de Julien Froment dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Voilà qui va intéresser les amateurs de foot. Sophie Larmoyer, on file maintenant au Moyen-Orient. Au Qatar.
La prochaine Coupe du Monde de foot sera organisée au Qatar en 2022, à des dates un peu décalées, chaleur oblige. Ça se passera entre le 21 novembre et le 18 décembre. Et dans les carnets aujourd'hui, on vous emmène là-bas faire un point des préparatifs. Car Julien Froment était au Qatar le mois dernier. Bonjour Julien.
Bonjour Sophie.
Vous y étiez dans le siège du PSG en pleine tournée commerciale, on peut dire ça, pendant 5 jours.
Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, le PSG est détenu par l'émir du Qatar et donc Paris est venu mi-janvier à Doha, où il était plus question de business, de marketing que de football. Les Parisiens qui ont d'ailleurs bénéficié de certaines infrastructures du futur mondial 2022.
Alors justement, vous en avez profité, vous, pour visiter certains sites de la prochaine Coupe du Monde. On va décrypter avec vous quelques-uns des enjeux de ce grand rendez-vous sportif. Mais je propose qu'on écoute d'abord votre reportage à Doha et dans ses environs. C'est parti.
5 heures du matin au sud de Doha, quartier de Waqif. Le chant du muezzin est rythmé par le son des marteaux-piqueurs. 24 heures sur 24, un balai incessant de grues et d'ouvriers se joue dans la capitale qatarienne qui depuis quelques années est devenue un chantier à ciel ouvert. Car en 2022, elle doit recevoir l'un des événements majeurs de sa jeune histoire, la Coupe du Monde de football. Stéphane est jockey, il vit là-bas depuis 13 ans. Il a tout de suite ressenti l'effet mondial sur le pays.
Oui, il y a eu un élan supplémentaire qui a vraiment boosté le pays, qui est même un peu pénible au quotidien parce que c'est tellement des travaux de partout. Mais moi, je trouve que depuis un an ou deux, on voit quand même mieux dans quelle direction on va. C'est quand même un peu moins le chantier. En 13 ans, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, quoi. Il y a 13 ans, c'était que du sable. Après, c'est vrai qu'on dirait un peu que c'est fait au crayon à papier. Et puis le lendemain, on gomme. Finalement, on a raté là. C'est hallucinant.
Rien n'est trop beau ou trop grand pour l'État qui fait pousser les villes et les stades dans le désert. Le cas le plus emblématique est celui de Lusail, situé à 15 km au nord du centre-ville de Doha. Toute la ville ou presque est en travaux. Même les applications de cartographie ne sont pas encore tout à fait au point. Mais une fois achevée, cette ville doit devenir le nouveau visage du Qatar. Une ville durable et moderne, les termes qui reviennent le plus souvent dans la bouche des officiels qatariens. Les moyens sont là, 40 milliards d'euros d'investissement pour transformer un tas de sable en gratte-ciel, marina, building et centres commerciaux. Myriam s'est installée à Lusail il y a 4 ans, elle assiste jour après jour à la naissance de la ville.
Quand je suis venue habiter à Lusail, c'était encore une ville fantôme. J'avais l'habitude de faire ma marche avec mon mari vraiment dans une ville fantôme. Et aujourd'hui, on découvre deux marinas, une promenade, des stades. C'est énorme, on a l'impression d'être un peu dans une ville futuriste. Quand on rentre de grandes vacances, souvent on voit des immeubles qui ont poussé en un été. Et je pense que ça va être énorme.
Le clou du spectacle reste le stade de Lusail qui hébergera le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde. 3500 ouvriers se relaient jour et nuit, chiffre qui peut monter à 7000 dans les périodes de rush. Sous 26 degrés la journée au moment du reportage, mais bien plus l'été. Cela peut parfois dépasser les 45 degrés. Les footballeurs ne devraient eux pas avoir ce genre de problème. Le mondial se déroulera en hiver et l'enceinte ultra moderne aura un système de climatisation qui fait déjà la fierté de Tamin El Abed, le chef du projet du stade.
C'est mis en œuvre dans différents endroits du monde, mais ça n'a jamais été fait sur un projet de ce niveau-là. Évidemment, sur le terrain, pour la sécurité des joueurs et pour qu'ils puissent jouer à leur meilleur niveau, on maintiendra une température à 26 degrés et une température agréable pour les spectateurs. Donc le fait que ce soit aussi gros et la complexité du design en font notre stade le plus ambitieux.
Cette Coupe du Monde se joue aussi et surtout dans les tours du quartier d'affaires de Doha, au 38e et 39e étage de la Albida Tower. C'est là que siège le comité d'organisation du mondial. Musée qui retrace la courte histoire du football du pays. Vidéo de présentation de Qatar 2022 sur écran panoramique. Maquette des 8 stades qui accueilleront les matchs et notamment la première enceinte démontable de l'histoire de la Coupe du Monde, construite à base de containers et de matériaux réutilisés. Tout est ficelé au centimètre près. Le but pour le Qatar, c'est de ne pas pouvoir être pris à défaut sur un dossier qui dépasse le cadre purement footballistique. C'est aussi et surtout dans ce gratte-ciel que les grandes décisions sont prises. Malgré l'omniprésence de la FIFA dans l'organisation, le Qatar veut rester maître de son destin. Dernier exemple en date, le passage de 38 à 42 pays souhaité par la FIFA. Nasser Al-Khater est le secrétaire général adjoint à l'organisation de la Coupe du Monde 2022.
Nous avons tout prévu pour 32 équipes. On comprend que la FIFA, avec qui nous sommes en discussion, étudie toujours la faisabilité qu'il y en ait plus. Il est convenu avec eux qu'on regarde ce qu'il en est. Mais la FIFA est très claire, aucune décision ne sera prise sans l'accord du Qatar.
À marche forcée, avec beaucoup de sueur et un peu de sang, malgré les critiques, le Qatar est en train de finaliser l'un de ses projets les plus fous. Tout doit être prêt et livré pour 2020, soit 2 ans avant le début de la compétition. Du jamais vu dans l'histoire d'une Coupe du Monde. Doha, Julien Froment, Europe 1.
Voilà, des installations livrées 2 ans avant l'heure. Ça dit combien le Qatar espère être irréprochable sur cet événement. Julien Froment, quelques questions pour aller un peu plus loin. D'abord, il faut rappeler que cette Coupe du Monde s'inscrit dans une stratégie globale du Qatar qui fait tout pour devenir un acteur majeur du sport.
Oui, exactement. Depuis de nombreuses années, le Qatar, qui s'appuyait essentiellement sur le pétrole et le gaz, voit désormais dans le sport un moyen de faire parler de lui en bien, mais aussi un autre moyen de développer une nouvelle économie. Et dans ce cadre-là, forcément, la Coupe du Monde est la pierre angulaire de ce qu'on appelle le soft power, une politique dite douce, et ça passe par l'organisation d'événements sportifs. Alors il va y avoir la Coupe du Monde en septembre prochain, il y aura aussi les championnats du monde d'athlétisme, et par le passé il y a eu le mondial de handball en 2015, les Jeux asiatiques en 2006. J'ai rencontré à Doha l'ambassadeur de France au Qatar, monsieur Franck Gelet, et il analyse ce changement de stratégie.
Le Qatar d'ores et déjà vit en partie sur une économie du sport, en attirant un certain nombre de championnats. C'est un moyen, pas seulement de se faire connaître, mais c'est également un moyen de se développer, parce que ça veut dire faire venir des gens, rayonner et donner une certaine image de soi-même, qui suscite en retour un intérêt pour le Qatar, pour d'autres personnes qui, du coup, voudraient y investir ou s'y intéresseraient d'une autre manière.
Julien, la tournée des popotes du PSG le mois dernier dont vous parliez, c'était dans la même logique ?
Ah oui, c'est un échange de bons procédés. Ouais. Le PSG représente le Qatar à l'international, c'est sa vitrine. Quand Neymar ou Kylian Mbappé marquent un but, et bien sous le maillot parisien, c'est de la publicité pour le Qatar dans sa communication à l'international. D'ailleurs, le PSG est utilisé dans les spots publicitaires de QTA, l'Office du tourisme du Qatar. On pourrait comparer un peu ça à l'aéroport de Doha qui est devenu un hub, une plateforme aérienne, un point de passage obligatoire pour aller aux quatre coins du monde. Et bien, le Qatar veut désormais devenir un hub en matière de sport. Et d'ailleurs, à Doha, il y a Aspire, qui est le centre de performance, un centre unique au monde qui accueille de nombreux clubs et de sportifs aussi, notamment durant la trêve internationale. Et puis, il y a aussi le centre de médecine Aspetar, qui lui aussi est à la pointe. Bref, le Qatar veut développer et pérenniser
un tourisme du sport de haut niveau.
Alors, il y a tout de même quelques éclats dans cette belle vitrine que vous nous décrivez, notamment cette question des conditions de travail des ouvriers qui construisent les stades. Hein, c'était évoqué dans votre reportage. On se souvient de plusieurs rapports ces dernières années qui dénonçaient des mois de travail sans repos, des journées de 18 heures sur les chantiers. Qu'en est-il ?
Eh bien, on a abordé frontalement ce sujet avec les officiels et notamment Nasser Al-Rater, le secrétaire général adjoint à l'Organisation du Mondial. Et pour lui, eh bien, le Qatar a fourni des efforts conséquents dans ce domaine.
La question des aides sociales et des droits des travailleurs, on y travaille depuis le début, depuis qu'on a remporté l'organisation de la Coupe du Monde. Et on est très heureux et très fiers que notre travail en tant que comité d'organisation ait aussi créé du changement pour d'autres au Qatar. Ça a créé un élan de progrès. On est fiers de dire que cela a aussi poussé le gouvernement à changer les lois avec de nouvelles normes à appliquer pour les employeurs sur les conditions de vie de leurs ouvriers, leurs conditions de travail, le nombre d'heures travaillées. Les changements et les progrès sont énormes. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis l'étranger, lisent les infos et critiquent pour le plaisir de critiquer. On les invite, ces gens, à venir voir de leurs propres yeux, se faire leur idée des progrès et de l'ampleur des changements réalisés en faveur des droits des travailleurs et de leurs conditions.
En tout cas, ces progrès ont incité l'Organisation internationale du travail à clore la procédure pour travail forcé qui avait été ouverte depuis 2014 contre le Qatar. L'OIT a aussi ouvert un bureau à Doha, mais ça ne convainc pas tout le monde. Hein,
oui, ça c'est le discours officiel. Hein. Ouais. On a voulu un contrepoint. On est donc allé toquer à la porte des ONG, notamment de Sherpa, qui est à la pointe sur le sujet des conditions des travailleurs. Marie-Laure Guilin est responsable des contentieux à Sherpa. Il y a eu des enquêtes en 2014 et plus récemment en 2018. Le constat est assez simple. Il y a des améliorations, mais qui ne sont pas forcément appliquées.
Donc les conditions de travail que nous avons pu observer à travers les témoignages seraient donc caractéristiques de travail forcé puisque les passeports étaient confisqués. Les travailleurs qu'on a pu interroger nous parlaient de conditions de travail extrêmes, de 12 heures par jour sous 50 degrés au soleil, sans protection adéquate. Beaucoup de ce qu'on appelle des morts naturelles pour les entreprises, mais ce que les travailleurs, eux, appellent des crises cardiaques. On peut encore parler de travail qui serait incompatible avec la dignité humaine. La législation n'a pas changé assez pour garantir les droits fondamentaux des travailleurs, notamment du point de vue syndical, d'un salaire minimum, et c'est ce que nous montrions déjà en 2014. Même les entreprises ne respectent pas forcément les lois qataries qui sont parfois pourtant peu protectrices. Donc l'idée, c'est aussi maintenant qu'il y ait une amélioration de la législation, qu'elle soit appliquée sur place par les grosses entreprises, mais aussi par les sous-traitants, puisque la plupart des employés sont employés par la sous-traitance.
Et l'enquête de l'ONG, Sherpa, aboutit à une plainte du comité contre l'esclavage moderne contre Vinci, pour notamment travail forcé, réduction en servitude ou encore travail incompatible avec la dignité humaine.
Je reviens au foot, Julien. Cette Coupe du Monde 2022, finalement, à 32 ou à 48 équipes ? On ne le sent pas très chaud, l'organisateur, sur les 48 équipes.
C'est un sujet de tension, très clairement. La FIFA, elle, pour des raisons, on va dire, financières et diplomatiques, voudrait une Coupe du Monde à 48 parce que ce sont des revenus supplémentaires qui pourraient arriver dans l'escarcelle de la Coupe du Monde. Pour le Qatar, là, ça bloque, tout simplement. Parce que le Qatar, s'il y a 48 sélections nationales, il faut un petit peu agrandir les murs et donc aller toquer aux portes des voisins. Et on sait qu'en ce moment, les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite sont extrêmement compliquées. D'ailleurs, c'est peut-être le seul sujet tabou qu'il y a eu lors de mon séjour à Doha. Aucune personne ne voulait parler des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, la seule réponse, finalement, qui est assez visible dans tout Doha, ou même sur les pare-chocs des voitures, c'est le portrait de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. C'est un élan de nationalisme qu'il n'y avait pas auparavant au Qatar. Mais ça montre que le pays n'est pas prêt à faire des concessions sur le sujet.
En tout cas, on verra si le foot réussit à adoucir les mœurs diplomatiques comme c'est déjà arrivé quelques fois par le passé. Merci beaucoup,
merci
Julien, pour toutes ces explications. À bientôt dans les carnets.
Europe 1.
Changement radical de décor. Mathieu Charrier nous rejoint dans les carnets. C'est notre grand spécialiste de bande dessinée. Il était à Angoulême pour le festival. Il y a rencontré les jeunes auteurs de BD qui viennent dans l'espoir de convaincre des éditeurs. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
13h44, on retrouve Sophie Larmoyer pour la suite de ces carnets. Maintenant, on va se replonger dans l'univers de la BD.
Le 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est achevé dimanche dernier. C'est l'américaine Emile Ferris
qui a remporté le Fauve d'Or pour sa BD « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Et dans les carnets, on joue les prolongations. On a attendu que Mathieu Charrier rentre du festival pour l'avoir avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors on voulait parler avec vous des jeunes auteurs de BD, dessinateurs du monde entier qui viennent à Angoulême dans l'espoir de trouver un éditeur. Un peu comme les jeunes réalisateurs vont à Cannes, hein, c'est ça. Le Festival d'Angoulême organise même des sortes de speed dating.
Exactement, ça se passe à l'espace Jeunes Talents. Vous imaginez un immeuble au bord de la Charente. Mais alors la tranquillité avec laquelle coule le cours d'eau tranche avec le bouillonnement à l'intérieur de cet endroit. Des dizaines de jeunes auteurs sont là, un petit peu dans tous les coins, planches, dessins, carnets, chemises sous le bras. Très concentrés parce qu'ils vont jouer une partie de leur carrière en quelques minutes. Le principe, il est assez simple. Ils doivent convaincre le plus vite possible un éditeur. Alors, je vous propose de nous installer aux côtés de Clémentine Delannoy. Elle est éditrice pour Le Lombard, vieille et célèbre maison d'édition. Et elle accueille donc un Italien.
Alors, du coup, le troisième, c'est Lucia Gabi.
Voilà, c'est parti pour Lucia Gabi qui, vous allez voir, a un projet de bande dessinée un petit peu particulier.
C'est simplement une BD de fantasy, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà lu. Car, comme vous pouvez le voir, ça se passe de nos jours, dans une grande ville, une mégalopole. Les gens se lèvent le matin pour aller travailler, ils ont des relations sociales, et tout le monde vit en paix, c'est une sorte de ville normale. Et puis il y a cet homme qui démarre une nouvelle carrière de manager de star du porno. Et vous pouvez voir comment sur ce dessin, vous voyez cette grande femme là ?
Attendez, là si je vois bien, donc c'est un dragon dans un film pornographique.
Oui, absolument, oui, oui.
Ok, j'étais pas sûre d'avoir compris. C'est étrange.
Oui, je vous l'accorde, c'est étrange. Oui.
Et donc le dragon couche avec la femme et ensuite il la tue.
Oui.
Super. Bon, pour moi, même si je n'ai pas tout lu, je peux déjà vous dire que ça ne pourra pas être publié chez Le Lombard. C'est un peu trop un dragon qui a une relation sexuelle avec une femme.
Oui, 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 j'ai conscience que j'ai quelque chose de particulier entre les mains. Strange things in my
hands. They won't let me. Oui, mes patrons ne me laisseront jamais publier ça. Mais merci.
Thank you so much. Merci beaucoup. Really thank you.
Les dragons qui ont une relation sexuelle avec les jeunes femmes.
Compliqué, compliqué. Hein. Je rappelle qu'on a 72 ans au Lombard, à peu près. Compliqué. Non, mais si, sur un ton humoristique, pourquoi pas, mais ça partait un peu bizarrement quand même. La fille qui se faisait prendre par le Minotaure, je sais pas. On n'a peut-être pas tous les mêmes fantasmes.
Que c'est non.
Non. Définitivement non, malheureusement.
Merci, au revoir. Tous les projets sont quand même pas aussi étranges que celui-là.
Non, il y a aussi des projets sérieux, mais vous savez, c'est l'univers du 9e art. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que ces jeunes auteurs, ils viennent vraiment des quatre coins du monde, parfois pour un entretien d'un quart d'heure. Il y a beaucoup, beaucoup d'Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Belges, bien sûr, mais aussi des Asiatiques. J'ai croisé des Japonais, des Chinois. Pour beaucoup, il faut bien le dire, ils commencent leur carrière, donc ils roulent pas sur l'or. Donc, c'est un peu la débrouille. Prenez Gomez, par exemple. Chaque année, lui, il fait le déplacement depuis l'Espagne.
La première fois, je venu en train de Alicante et après, nous venons ici en avion de Madrid à Bordeaux. Et à Bordeaux, en train à Angoulême. Et nous dormons ici à une petite maison très, très jolie. C'est la troisième fois que nous venons ici.
Et pourquoi alors vous venez rencontrer des éditeurs
Les maisons d'édition de la France ou de la Belgique sont maisons d'édition très célèbres à l'Espagne. Et nous venons ici pour montrer les travaux, pour montrer un projet, pour chercher le travail.
Vous êtes venu d'Espagne pour voir une maison d'édition?
Oui, oui, c'est vrai. Nous voulons travailler. Et toutes les années, j'achète beaucoup de DVD français. 200 euros chaque année.
Et oui, voilà, parce qu'en plus, une fois qu'ils ont fini ces entretiens, ils vont ensuite dans les bulles découvrir ce qui se fait et dépenser leur peu d'économies pour acheter évidemment de la bande dessinée.
Évidemment, tous les éditeurs participent à ces speed dating.
Oui, la grande majorité, ils donnent chaque après-midi 2 ou 3 heures de leur temps. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de ces jeunes dessinateurs espèrent bien sûr trouver un éditeur pour être publié, ça c'est le Graal. Mais pour certains, déjà, le fait de recevoir quelques conseils est très important. Il y a tellement de demandes que le matin, des professeurs des écoles de l'image d'Angoulême font une sorte de présélection. Donc, seuls les meilleurs, entre guillemets, arrivent devant les éditeurs. Comme Clémentine Delannoy du Lombard, avec qui j'ai passé une partie de l'après-midi. Écoutez sa réaction juste après la présentation des planches de l'homme au dragon bizarre.
C'est d'avoir un retour avant tout. C'est peut-être des gens qui n'ont jamais eu un retour de professionnel. Je donne un retour, mais après, je ne vais pas non plus donner ma carte parce que ce n'est pas quelque chose qui va déboucher sur un projet, même si, malheureusement, même si la personne continue à travailler beaucoup.
Ça fait combien de temps que vous faites ça?
C'est la quatrième année, je pense.
C'est pas fatigant?
Un tout petit peu parfois. Mais il y a des choses intéressantes. Et là, du coup, quand sur 20 personnes, on en a une de vraiment chouette, ça vaut le coup.
Voilà, Clémentine parle d'un auteur français qu'elle a rencontré ce jour-là lors des speed dating. Et lui, je peux vous dire qu'elle lui a donné sa carte. J'étais là, elle espère un jour le publier.
Justement, ça existe depuis longtemps, ces speed dating. Et est-ce que certains auteurs y ont été découverts?
Alors, ça existe depuis une quinzaine d'années. Et oui, parfois, ça marche. Justement, écoutez Zilda Tribault qui s'occupe du pavillon Jeunes Talents pour le Festival BD d'Angoulême.
Les éditeurs ont vraiment joué le jeu, avaient un réel besoin et un besoin de se trouver hors de leur stand aussi, c'était aussi important. Donc voilà, ça ne fait que progresser depuis 15 ans.
Est-ce qu'on sait combien de jeunes viennent présenter leurs projets? Quelle nationalité?
Alors les nationalités sont très diverses, on sait, particulièrement sur les Européens. Enfin, beaucoup d'Italiens viennent. En termes de chiffres, sincèrement, j'arrive pas à quantifier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rencontrer une vingtaine d'auteurs par maison d'édition, et après je pense que s'ils pouvaient recevoir 200 chacun, il y en aurait pour tout le monde.
Est-ce que ça donnait lieu à des bandes dessinées éditées qu'on retrouve maintenant dans le commerce?
Alors il y a des projets, oui, je sais, qui ont été signés dans ces speed dating. J'ai le projet Média Entity qui est sorti avec Yannick Lejeune chez Delcourt, a été fait d'une rencontre au pavillon Jeunes Talents.
Voilà, donc parfois ça vaut le coup de faire des milliers de kilomètres et d'attendre des heures. Et c'est vraiment un rendez-vous important pour les éditeurs dans un contexte évidemment de plus en plus concurrentiel. Il faut trouver les pépites de demain. D'ailleurs, les éditions Delcourt ont par exemple lancé leur propre école de bande dessinée à Paris qui s'appelle l'Académie Brassard Delcourt.
Ouais.
C'est vous dire à quel point c'est un enjeu pour les éditeurs de trouver de jeunes auteurs.
Ouais, et quand on voit comment les rayonnages de BD se sont complètement étoffés ces dernières années dans les librairies, ça donne aussi une idée de la difficulté de se faire connaître,
exactement,
de percer quand on est jeune auteur. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir fait découvrir ce rendez-vous des bleus de la BD d'Angoulême, on pourrait dire en quelque sorte. À bientôt dans les carnets.
Europe 1.
Le bleu, c'est sa couleur fétiche, mais ça fait longtemps qu'il a percé, lui, et je ne suis pas sûre qu'il dessine. Non, il philosophe et il voyage. Joseph Chovanec nous rejoint dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
13h51, un petit voyage en Autistan. Dernière étape avant de refermer ses carnets, Sophie Larmoyer.
Après des semaines d'absence, même si on se parlait chaque semaine par Skype, il est de retour. Joseph Chovanec en chair et en os avec nous sur Europe 1. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Pas loin de 6 semaines quand même, dans la péninsule arabique, dont vous ramenez une bonne mine et cette réflexion sur la nationalité.
Mais oui Sophie, régulièrement dans le débat public, cette question du cadre juridique de la nationalité française ressurgit. En apparence, les choses sont simples. On a la nationalité française. On ne l'a pas, la loi c'est la loi comme on dit. Mais la vérité humaine est toujours plus complexe que ces logiques bureaucratiques. Et plus on essaye de rigidifier ou comme on dit sécuriser la procédure, plus le nombre de gens mis à l'écart est grand et pas des moindres des personnes. Traditionnellement, les passeports français étaient écrits à la main il y a un demi-siècle à peu près. Pour ce qui est des passeports diplo, l'usage s'est maintenu jusqu'à il y a très récemment. Et je repense à cet ami, une figure du Quai d'Orsay qui me raconte la larme à l'œil comme il a passé toute sa vie à faire à la main des passeports. Jadis, la procédure pour avoir un passeport était relativement simple. Il suffisait de demander, les choses étaient plus ou moins négociables avec un peu de bon sens.
Période révolue, faut montrer patte blanche maintenant et même les empreintes digitales.
Mais oui Sophie, et on serait surpris du nombre de personnes indiscutablement françaises laissées sur le carreau. La semaine dernière, j'ai été accueilli au domicile d'un haut représentant de la France dans un pays ami. Et lors de nos échanges, il m'a longuement exposé comment sa principale hantise était de prouver sa propre nationalité française. Oh. Car oui, suite au changement législatif, lui et son père, ancien ambassadeur de France, figure historique de la diplomatie française, ont perdu leur nationalité française, ou plutôt ne pouvaient plus y prétendre. De même qu'ils ne disposaient plus d'un numéro de sécu.
Mais je ne comprends pas pourquoi, surtout s'ils sont des représentants de la France à l'étranger.
Et oui Sophie, c'est un cas assez commun dans les grandes familles de serviteurs de l'État qui ont vécu depuis des générations dans l'ancien empire colonial français.
Ah,
l'ironie de la chose, c'est que mon ami soit précisément chargé par le gouvernement français de notifier aux personnes nouvellement naturalisées leur acquisition de nationalité sans que lui-même puisse en faire état. À titre personnel, je me suis souvent demandé quelle était au fond ma réelle nationalité. Oui, quand je suis en France, la plupart des gens me donneraient le passeport suisse sans confession. En Suisse, on me croit belge. Ça m'irait bien après tout. Et canadien quand je suis en Nouvelle-Calédonie.
Et ça, c'est votre façon de parler. Vous avez comme un petit accent, c'est pas trop doux.
Autistique, hein, mais de façon plus savoureuse. Quand j'étais au Kenya, on me prenait pour un Ougandais.
Oh,
parce qu'il semblerait que dans la culture kenyane, les gens bizarres viennent de l'Ouganda. Bon, voilà. L'autre jour, j'ai visité la charmante ville montagnarde de Taïf, en Arabie Saoudite. J'ai fait une pause à l'heure de la prière du midi près d'une mosquée. Non pas que je sois musulman, mais c'est l'endroit idéal pour observer les gens, leurs habitudes, etc. J'ai été approché par un monsieur en tenue locale. Il m'a demandé d'où j'étais, intrigué sans doute par mes vêtements occidentaux. Ouais. Alors je lui ai répondu « Anam in Faransa, je suis de France ». Et mon interlocuteur de me regarder stupéfait. Au bout d'un moment, il me répondit « Non, pas de France. Chiklou Kassouri, hein, tu as un air syrien. Hein. » Et de conclure que j'étais syrien. Ma foi, pourquoi pas.
Oui, c'est la première fois qu'on vous la faisait, celle-là.
Mais pas la dernière, Sophie. Ah. J'étais enhardi par cette nouvelle nationalité et j'ai fait une folie. Je me suis rendu à la Mecque. D'ordinaire, la Mecque est strictement interdite aux non-musulmans. Quand on est occidental, les papiers sont rigoureusement contrôlés. Et donc, moment de terreur au checkpoint, vous l'imaginez bien, d'autant plus que les gens devant moi étaient contrôlés longuement. Mais quand ce fut mon tour, les agents m'ont simplement fait signe de passer. J'étais syrien. Donc vu le grand haram de la Mecque, une expérience bouleversante, comme quoi perdre sa nationalité peut avoir des avantages.
Surtout quand on la récupère juste derrière.
Voilà.
Vous avez combien de passeports, Joseph ?
Celui d'autiste est en cours d'impression.
Ah oui. Vous mériteriez un passeport diplomatique avec tout ce que vous faites. Merci beaucoup, à dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
Du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous avez raté une étape, aucun problème. Le podcast sera sur le site europe1.fr dans l'après-midi. Un grand merci à toute l'équipe, les reporters de la rédaction d'Europe 1, Sophie Mallier à la réalisation et Florence Gimala qui m'aide à préparer l'émission. On vous donne tous rendez-vous dimanche prochain dès 13h. D'ici là, portez-vous bien.